Bienvenue dans Puzzle. Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je chillais devant Disney+, suite aux recommandations de mon comparse Jonathan, mon ami Michel s'émerveilla.
C'est fou tout ce que Walt Disney a écrit quand même. Blanche-Neige, Le Roi Lion, La Reine des Neiges. Faut en avoir de l'imagination.
Voyant mon ami se méprendre sur les origines des grands classiques Disney, je me devais de l'éclairer sur ce point. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de quelques livres adaptés par Disney qui valent vraiment le coup d'être lus. Pour commencer,
rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles.
Vous connaissez ? Bon, j'ai un peu la voix qui coince, mais j'espère que vous avez quand même reconnu la chanson de Peter Pan. Le dessin animé est très cool. Il y a Wendy, Michael et John Darling. Ils rencontrent Peter Pan un soir où leurs parents sont absents, un peu de poussière de fée, et zou au pays imaginaire pour rencontrer les enfants perdus, ces petits gamins en grenouillère, Lily la tigresse, les sirènes et Capitaine Crochet. Spoiler, à la fin, Wendy rappelle aux enfants ce que c'est d'avoir une maman, ils se disent tous que ça a l'air pas mal, donc ils rentrent chez eux. Wendy est prête à grandir, et les parents se souviennent qu'ils ont été des enfants. Mais cette histoire toute douce avec une belle morale, vous la connaissez déjà. Pourtant, dans l'œuvre de James Matthew Barry, ou plutôt les œuvres, ça se passe pas exactement comme ça. Revenons aux origines. Le personnage de Peter Pan est apparu dans un premier petit roman, Le Petit Oiseau Blanc, puis dans la pièce Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir, et ensuite, en version romanesque, sous le titre Peter et Wendy. C'est important de le préciser, parce que Barry lui-même a ainsi réécrit plusieurs fois l'histoire de Peter Pan. Et ce qu'on peut dire sur sa version initiale, c'est qu'elle est un peu plus dark que celle de Disney. Peter est un garçon égoïste et il déteste les adultes. Il paraît d'ailleurs que sur l'île de Neverland, à chaque respiration, un adulte meurt. Du coup, Peter fait exprès de halter. Et il s'en prend pas qu'aux adultes, puisqu'il supprime les enfants perdus dès qu'ils semblent avoir grandi. Parce que c'est contraire au règlement. Vous l'aurez compris, c'est pas joyeux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces éléments, le récit a une dimension bien plus forte que la version de Disney. Le pays imaginaire, Neverland, c'est littéralement le pays de jamais. Le temps s'y est arrêté, Peter oublie les enfants perdus qu'il a connus, il oublie Wendy. Peter Pan, c'est en fait le petit garçon qui a peur de mourir. Tout comme le Capitaine Crochet, dont la peur est symbolisée par le crocodile qui fait tic-tac. James Matthew Barry a vécu un événement traumatisant enfant. Son grand frère David est mort à 14 ans alors que James n'avait que 7 ans. Pour tenter de remplacer l'enfant prodige dans le cœur de sa mère et gagner son attention, James prend complètement le rôle de David. Il s'habille et se met à parler comme lui. La réalité est parfois aussi troublante que la fiction. James ne dépassera pas la taille d'un enfant de 14 ans et gardera une voix d'enfant, même adulte. Il est lui-même devenu le garçon qui ne pouvait pas ou ne voulait pas grandir et qui recherchait une mère. Il y a de nombreux autres parallèles à faire entre la vie de Barry et son œuvre, si bien qu'on ne sait parfois plus si la fiction est devenue réalité ou si la réalité a inspiré la fiction. En tout cas, même si l'histoire cache un message assez sombre, c'est tout de même un très beau texte, plein de fantaisie et de références mythologiques, avec beaucoup d'inventivité, qui mélange plusieurs genres, et surtout, une œuvre plus complexe que celle des Disney. Il y a vraiment beaucoup à lire dans le Peter Pan de James Matthew Barry. La transition avec la deuxième œuvre dont je vais vous parler est toute trouvée, puisque l'autrice dont on va parler était elle-même très admirative de James Barry. Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, donc je vais vous donner quelques indices pour reconnaître son héroïne. Elle est anglaise, elle a des pouvoirs magiques, elle porte un chapeau, un très grand sac, et un parapluie perroquet. Mary Poppins, évidemment. C'est à l'origine l'œuvre de Pamela Travers, une autrice australo-anglaise. Mary Poppins, sortie en 1934, était le roman préféré des filles de Walt Disney. Il leur avait donc promis d'en faire l'adaptation. Et ça n'a pas été si simple que ça, parce que Pamela Travers ne voulait surtout pas que Disney fasse de son histoire un dessin animé saugrenu avec des chansons et une histoire d'amour. Après quelques années, Travers a concédé ses droits, principalement pour des raisons financières, et malgré sa participation en tant que consultante, elle restera très déçue par l'adaptation de Disney, qui est pourtant un des plus gros succès des studios. Pourquoi ce mécontentement? Eh bien là encore, Walt a lissé les aspects un peu plus rugueux de l'œuvre originale pour la rendre plus disneyenne. Même s'il a tenté de comprendre l'intention première de l'autrice, il a fait du roman un film plus comique, plus fantaisiste, moins triste. Ça change la morale de l'histoire et ça la rend moins complexe. Et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Et on peut y voir d'autres choses. Comme par exemple une petite ode à l'anarchie. Moi j'ai lu une analyse dans ce sens, j'ai décidé d'y croire, vous en faites ce que vous voulez. Pour en revenir au livre, je vous les recommande, et je dis bien les, justement parce qu'il y en a plusieurs. 8 précisément. Le dessin animé est basé sur divers chapitres des 4 premiers livres, Quelques autres ont été utilisés pour le deuxième film sorti en 2018, mais il vous en reste plein d'autres à découvrir. Je vous conseille particulièrement Mary Poppins, la maison d'à côté, une très belle édition illustrée publiée par le Castor Astral en 2018 également. En plus des histoires, le paratexte est très intéressant. L'introduction du traducteur Thierry Beauchamp replace l'œuvre dans son contexte en retraçant une partie de la vie de l'autrice, et un article écrit par P.L. Travers en 1978 expose son point de vue sur la littérature enfantine. Elle y déclare qu'elle n'écrit pas pour les enfants, mais parce qu'elle a été une enfant, et qu'il est impossible d'écrire pour les enfants de la même manière qu'il n'est pas possible d'écrire pour les adultes. Cette édition regroupe La Maison d'à côté et L'Allée des Cerisiers, deux aventures de Mary Poppins jusque-là jamais traduites en français. Vous y découvrirez une Mary un peu revêche, pas sympa avec les enfants, plutôt sorcière que nounou. Mais c'est ce contraste qui crée la fascination. Pamela Travers aurait sûrement pas kiffé que je dise ça, mais je vous jure que c'est super califragilistique expialidocious.
Ah oui, donc les livres c'est triste et Disney c'est joyeux. Je vais peut-être m'en tenir au film si je veux pas risquer la déprime.
Mais non, Michel, ne vire pas toi aussi au manichéisme. Pour prouver le contraire, je vais vous parler d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous replante le décor rapidos. Alice, c'est une petite blonde qui s'ennuie pendant que sa sœur lui fait la leçon, elle se balade, et puis elle aperçoit un gros lapin qui fait que de dire qu'il est en retard. Et Alice, comme elle est un peu fouineuse, elle le course pour savoir où il va, mais les lapins s'accourent vite. Du coup, sur son chemin, elle va croiser pas mal de monde. Une porte qui parle, un dodo complètement à l'ouest, une chenille qui fume un narguilé, un chat complètement psyché, tout ça après avoir mangé un biscuit magique. Autant vous dire que si le film a été boudé à sa sortie, c'est évidemment grâce aux babos des années 60 qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse. Car oui, à sa sortie, ça n'a pas été un franc succès. Notamment parce que la critique a jugé que ce n'était pas une adaptation assez fidèle. Le dessin animé est inspiré de deux œuvres de Lewis Carroll, Alice in Wonderland et Through the Mirror. Les deux récits sont constitués de chapitres chacun consacrés à de nouveaux personnages. Du coup, mis à part le fait qu'Alice soit la narratrice de chacun de ces épisodes, l'histoire est décousue et complètement absurde. Et très riche. Dans les livres de Lewis Carroll, Alice rencontre à peu près 80 personnages. Du coup, pas étonnant que Disney ait galéré à en faire une histoire construite. Il lui a notamment fallu faire de nombreuses coupes et bricoler un fil conducteur. Il a aussi fait d'Alice une petite fille modèle perdue dans cet univers loufoque, et c'est un peu dommage. Donc, dans les livres de Carroll, vous allez découvrir plein de choses. D'abord, d'autres personnages géniaux, la simili-tortue, Humpty Dumpty, Bill le lézard, le griffon, une Alice effrontée et déterminée, et surtout, un style unique. Lewis Carroll est un des maîtres du nonsense, un style littéraire qui bouleverse la langue et la logique. Il invente des créatures, des mots, des concepts, il fait des jeux de mots entre la langue française et l'anglaise. Pour vous donner un exemple, un petit extrait du Jabberwocky, un poème inclus dans Through the Mirror. Il était grilleur, les slick putov, sur la loin de j'irais et vriblais. Tout flivoreux étaient les borogoves, les vergons fourbus bourniflaient. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Et surtout, c'est pas grave. C'est ça qui crée la rêverie. Mais n'hésitez pas à lire et relire ce poème et toute l'œuvre de Lewis Carroll pour en déceler toutes les subtilités. Il y a beaucoup d'autres films Disney inspirés de livres, que ce soit des contes classiques, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Réponse, des romans jeunesse plus modernes, Pinocchio, Basile Détective Privé, deux grands classiques de la littérature occidentale, Le Bossu Notre-Dame, Oliver et compagnie, ou des récits moins connus, dont je vous parlerai peut-être dans un futur épisode. En attendant, je sais que vous allez vous la péter en société en disant « la version Disney est pas mal, mais le livre est mieux ». J'espère quand même que vous retiendrez que c'est pas ce que je cherchais à vous démontrer. Livre et film restent deux œuvres différentes, et pour ma part, pour les trois cas dont je viens de vous parler, j'aime toujours autant les deux. Et sinon, si vous êtes gavé par les films hyper colorés avec des chansons toutes les 10 minutes et des animaux qui parlent, Jonathan et Zen, les chroniqueurs ciné de Puzzle, vous ont déniché sur Disney+, quelques films et documentaires qui vous changeront les idées. Sur ce, Michel et moi, on vous laisse, on va nourrir les oiseaux. Demain, vous retrouverez Mary, qui vous emmènera peut-être au pays imaginaire, peut-être au pays des merveilles. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle sera là pour vous emmener en voyage en podcast. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique.